Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour à tous en ce mardi 6 septembre. Bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Eh bien, c'est la rentrée pour les élèves. Et puis, on a toujours des élèves, on apprend toujours. On va dire que c'est la rentrée pour nous deux aussi, n'est-ce pas?
Absolument, on revient avec joie.
On revient avec joie. Et avec joie, nous accueillons un maître. Bonjour Denis Di Marino.
Bonjour à vous deux.
Nous sommes heureux de vous retrouver. Vous étiez venu nous voir déjà il y a un an ou deux.
Oui.
Il faut penser à la Covid aussi. Mais vous étiez venu nous donner une belle page d'histoire et aussi une page sur les associations, mais surtout mémorielles, patriotiques. Et vous avez été pendant de longues années délégué départemental du souvenir français.
Vous pouvez nous parler un petit peu du souvenir français en deux mots?
Alors, il va nous en parler. Il faut apprendre
ça. Il faut remémorer quand même. Hein.
Oui, doucement. Les yeux s'ouvrent, les oreilles aussi, c'est le matin. Qu'est-ce que le souvenir? Alors, peut-être, si on faisait un peu de français, puisqu'on est rentré. Français, bon, on a compris ce que cela veut dire. Et mais souvenir, pour vous ce mot, et pour Gisèle, qu'est-ce qu'il signifie?
C'est des réminiscences un peu, donc on ne sait pas trop. Ça reste quelquefois assez flou, les souvenirs.
Alors, voyons
on
voir.
Peut-être qu'on peut les enjoliver, et ça aussi.
Alors, qu'en dites-vous?
On vous laisse la parole.
Le souvenir. Je me souviens. Mais maintenant, je sais que les gens perdent souvent la mémoire. Ils n'ont plus de mémoire. Donc, au revoir les souvenirs.
Au revoir les souvenirs, oui. Hélas.
Hélas.
Parce qu'on ne travaille plus sa mémoire, en fait.
On ne travaille plus sa mémoire. On ne travaille plus. Et oui, donc, voilà.
Ça devient triste. Voilà.
Ça devient triste. Et comme la nature a horreur du vide, il faut essayer de combler. Mais il y a le mot français. Pour moi qui dis le mot français, dit France, je prends un atlas historique et j'essaye de parcourir les grandes pages de notre histoire de France pour réveiller des souvenirs, puisqu'il y a le souvenir français et qui, je vois, est né en 1887. Alors, nous allons nous interroger pourquoi cette date, qui n'est pas si lointaine, mais quand même ce n'est pas hier, c'est peut-être avant-hier. Pourquoi, cher monsieur, 1887? Et là, on entre dans l'histoire.
C'était après la guerre de 70.
Alors,
là, c'est ça.
Voilà. C'était tout de suite, je dirais presque tout de suite, oui, après la guerre de 1870. Et si vous voulez, si vous avez 4 heures de temps, je vais vous expliquer.
Oui, on va couper
en
deux.
On coupera.
Alors,
on est bien assis. Vous pouvez continuer.
Alors. Pourquoi 1887 et pourquoi après cette fameuse guerre de 1870, qui a été bien courte, mais qui a été une guerre qui a été, très courte, mais très décisive pour nos compatriotes alsaciens et lorrains.
Déclarée par la France.
Parce qu'on a perdu l'Alsace.
Sur une guerre, bien entendu, déclarée par la France, malencontreusement.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Et une France qui n'était d'ailleurs pas préparée à ce type de combat.
Bon. Non.
1887, pourquoi? Parce que tout de suite après la guerre de 1870, vous savez que l'Alsace et une grande partie de la Lorraine ont été annexées au grand Reich allemand.
L'Empire
allemand, si vous voulez. Et de ce fait... les habitants de cette Alsace et de cette moitié de Lorraine ont été assujettis aux lois allemandes et aux règlements allemands.
Ils n'étaient pas tous d'accord.
Voilà, point s'en faut, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient même bien opposés. Ouais. Et en particulier, de belles jeunes filles qui, pour faire un petit peu la pige aux Allemands, venaient malgré tout fleurir les tombes de soldats français qui étaient morts évidemment au combat.
Oui.
Et vous savez qu'à l'époque on les mettait pas dans des cimetières, il n'y avait pas de nécropole militaire, on les inhumait là où ils étaient tombés. à l'orée d'un bois, au milieu d'un champ, bon, etc. Et ces jeunes filles, vêtues de leur habit traditionnel, vous savez, avec les grandes oreilles
alsaciennes,
venaient fleurir les tombes, en plus, si vous voulez, avec des petits bouquets bleus, blancs et rouges. Mmh. Bon, ce qui agaçait superbement les Allemands.
Sûrement.
Bon. Et de ce fait, ça a donné l'idée à un instituteur, je crois, qui était M. Xavier Nissen, et qui a eu l'idée de créer un mouvement associatif pour justement honorer les soldats qui étaient tombés pour la défense de l'Alsace et de la Lorraine. Cet homme-là, bien entendu, s'est très vite fait repérer par les services de l'Empire allemand. Même si on l'a toléré au départ, fort intelligemment, mais évidemment, après, il en demandait toujours plus. Et on a décidé de l'expulser et de le retourner, ce qu'on appelle, à l'époque, ce qu'on appelait la France de l'intérieur.
Ah, bien
voilà,
sûr.
Hein, au-delà de Nancy.
C'est
hein,
ça.
Voilà. Donc, il s'est retrouvé à Paris. Il a continué dans son métier d'instituteur, bien entendu. Mais il a, poursuivi son idée de créer un mouvement associatif pour les tombes.
Pour honorer les tombes de nos soldats.
Voilà. Et il a donc créé, en 1887, comme vous le disiez justement tout à l'heure, il a créé le souvenir français. Voilà. Et ce souvenir français, il s'est très vite étoffé, parce qu'il a eu beaucoup d'adhérents. Vous savez qu'il y avait encore de grands élans patriotiques, surtout en raison de la défaite, hein, et de gens qui ont en nombre adhéré à ce mouvement.
Des gens qui avaient souffert aussi.
Voilà, et qui lui a donné de l'importance,
bien entendu.
Ouais. Et il s'est très vite, attiré les bons offices de députés, d'hommes politiques divers.
Mais ils ont compris aussi
la vérité,
quand même.
Et son mouvement a pris de l'ampleur. Et il a pris de l'ampleur jusqu'en, je dirais, à la guerre d'après.
Oui.
Hein, il s'est d'abord occupé des tombes des Alsaciens lorrains, et ensuite il s'est occupé, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, et notamment en 1915, après les grandes pertes de ces années-là, hein, 14 avait déjà été cruel, hein, de septembre à décembre, mais après, 15, en 1915, ça devenait
terrible.
On avait déjà le Vieillarmont, on avait déjà ces choses-là. Donc des pertes très importantes de nos soldats, et des Allemands aussi d'ailleurs. Mmh. Et il a réussi à introduire parmi les hommes politiques cette idée de créer un statut qui n'existait pas avant, auparavant, un statut de mort pour la France. Et que donner ce statut?
Oui, parce que les gens mouraient dans l'indifférence.
Et ce statut de mort pour la France, en dehors du phénomène honorifique pour celui qui était tombé, donnait quand même malgré tout des avantages aux veuves. Je parle un avantage pécuniaire.
Ça, c'est, hein, c'est pas négligeable. Là.
Ce qui n'était pas négligeable, parce qu'à l'époque, je crois avoir lu dans les, sur les fiches matricules des soldats qui étaient tombés, qu'on attribuait un montant de 150 euros en premier versement à la veuve. Et 150 francs. De l'époque. Et 150 francs, c'était énorme.
C'est bien, oui.
C'était parfois ce que gagnait une personne dans l'année.
Ah oui. Hein,
et on, concomitamment à ce petit avantage, je dirais pécuniaire, il y avait le statut de l'enfant, de l'orphelin,
qui était pupille,
qui devenait pupille de la nation. La notion de pupille de la nation,
très vient important.
De ce, voilà.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà. Donc il était élevé jusqu'à sa 21e année, je crois, sur le plan du financement et des aides qu'on pouvait lui apporter.
Donc,
et même au-delà, parce que les gens ne savent pas, même au-delà, s'il en faisait la demande, il pouvait être encore aidé.
Ah bon ?
Hein, oui, oui. D'accord. Donc, c'était quelque chose de très important compte tenu des pertes que nous avons eues. Hein, les pertes de 14-18.
Oui,
c'était énorme.
Si n'importe quel, je dirais, que ce soit le chemin des dames, que ce soit tous les le vieil Armand ou autre, c'était des pertes qui étaient
énormes.
Verdun, n'en parlons pas. C'est 10 000 morts.
10 000 morts par jour.
Par jour. C'est énorme, 10 000 morts. Imaginez-vous 10 000 dépouilles une à côté de l'autre, mais ça, vous allez très loin avec ça. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça a été d'une grande importance, une étude qui a été généreuse de sa part, bien entendu. Et ce qui lui a donné encore, malheureusement, il est mort un petit peu avant, mais son association a perduré, entendu. Et elle a perduré jusqu'au moment où, après-guerre, en 1921, une décision, je crois, enfin un vote de notre Parlement, a décidé que dans chaque commune française, pour honorer nos morts, il y aurait un monument dérigé.
C'est à partir de ce moment-là.
D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là aussi où on a commencé à créer des nécropoles militaires pour rassembler ces morts, parce que ils étaient un petit peu disséminés partout. Vous savez, dans les hôpitaux militaires, dans les ambulances, c'est-à-dire les ce qui était derrière le front, sous des tentes pour sauver les quelques soldats qui arrivaient, et ce qu'on a retrouvé sur les champs de bataille au fur et à mesure. Donc, on a créé des nécropoles à ce moment-là. Bon, et là encore, le souvenir français a agi. Parce que l'État a confié l'entretien de ces tombes au souvenir français.
Voilà, c'est ça.
Et à l'érection également de ces monuments sous la surveillance du souvenir français.
Et oui.
Ce qui est toujours, d'ailleurs, parce que, pour autant que je me souvienne, dans l'Ain, nous agissons énormément et sur des monuments, pour la remise en état.
Il faut toujours entretenir.
Il faut toujours entretenir. C'est quelque chose de capital, parce que les gens, c'est ce qu'ils voient. Les gens ne se passeraient difficilement d'un monument aux morts dans leur village, finalement.
Oui.
Et malgré tout. Et surtout l'entretien maintenant des tombes. Les tombes... Alors, si vous me permettez encore 5 petites minutes...
Allez-y.
Je ne dépasserai pas mes 4 heures.
Il faut éclairer.
Alors, pourquoi nous travaillons également sur le plan local ? Le souvenir français je vais utiliser le mot, c'est presque une obsession. Pourquoi ? Pour des tombes qui sont maintenant dans les cimetières communaux. Et pourquoi sont-ils dans les cimetières communaux ? Alors vous me direz, il y a eu des nécropoles. Nécropole militaire, tout le monde les connaît. Une tout près de chez nous, la Doua, par exemple.
Oui.
Notre-Dame de Lorette pour le Nord, etc. Et par contre, il y a quelques-uns qui ont échappé aux nécropoles et qui sont venus être inhumés dans des cimetières communaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que les familles ont réclamé les corps. Donc, ce sont ce qu'on appelle, en langage militaire, des corps restitués aux familles. Mais le problème qu'il y a, et ça pose un très gros problème même actuellement, c'est que ces corps restitués aux familles ne sont plus sous la responsabilité de l'armée, ni de l'État. Donc, ils sont tombés, je dirais, dans le domaine public. Au même titre que la tombe de votre grand-mère cimetière.
C'est ça.
Donc, maintenant, si vous voulez, les familles, malheureusement, ont très souvent disparu sont étiolées dans le monde.
Donc, c'est des tombes qui sont en déshérence.
En grave déshérence. Et pas seulement, et je ne parle pas seulement de nos braves qui sont tombés en 14-18. Bien sûr, il y en a. Mais je parle de ceux qui sont tombés pendant la bataille de France. Vous savez qu'on a eu quelques 100 000 morts, pardonnez le peu pour ceux qui pensent que la France ne s'est pas battue.
Oui, oui, oui.
Bon, et 100 000 morts que les Allemands ont autorisé aux familles à reprendre les dépouilles. Bon, c'était pas un problème.
Durant le mois de mai et le mois de juin.
Oui, mois de mai et le mois de juin.
10 mai. Voilà. 25 juin.
25
oui.
juin.
Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup. Même pas un mois et demi.
Oui,
quoi.
100 000 morts quand même.
Plus de 100 000.
C'est pas mal. Hein,
un bon rendement.
Bon, voilà. Oui, oui. Donc, ces hommes ont tous été à presque à 100%. Ils ont été inhumés dans des cimetières communaux par les familles.
Ah oui.
Je parle de la bataille de France 1940.
Oui. Bon.
Oui. Ensuite, vous avez effectivement aussi ceux qui sont morts en captivité. Donc de 40 à 45, et ceux-là, ils ont soit été mis à Notre-Dame de Lorette,
oui.
après-guerre, oui. Hein, parce que les Allemands les ont inhumés auprès du camp de prisonniers, oui. Mais ensuite, ils ont été rapatriés après la guerre, et mis pour la plupart à Notre-Dame de Lorette, mmh. ou alors encore restitués aux familles.
Ouais.
Bon, et on recommence. Et ensuite, vous aviez les conflits indochinois. Bon,
oui.
Les conflits indochinois, très. Pas de nécropole à part une à Dien Bien Phu.
C'est tout.
Mais sinon, en Indochine, tous les corps ont été rapatriés.
Oui.
D'accord. Donc, de nouveau.
Dans les cimetières communaux.
Dans les cimetières communaux et domaines familiales.
Voilà,
il y a Fréjus maintenant.
Voilà, et Fréjus un petit peu.
Un peu.
Parce qu'on rapatrie quelques-uns voilà. qu'on trouve.
Oui, hein, c'est ça.
Voilà,
c'est
en Indochine.
Oui.
Majoritairement au Vietnam.
Vietnam.
Ah oui, c'est le Vietnam.
Voilà,
d'accord.
Voilà, le Vietnam. Et ensuite, le grand drame, c'est les 30 000 de nos jeunes qui sont tombés en Algérie.
Ah, oui.
Parce que là, il n'y a pas de nécropole.
Non.
Enfin, il y a une nécropole, mais qui est Mersel Kébir, mais qui date de 40.
Oui.
Mais sinon, tous nos jeunes, ils ont été rapatriés. Pourquoi ? Parce que c'était
oui.
des jeunes du contingent.
Bien sûr.
Et les familles ont voulu récupérer leurs enfants.
Bien sûr.
Hein ? Donc là, si vous voulez, se pose un très gros problème pour le souvenir français. C'est-à-dire, l'entretien de ces tombes, à défaut de famille, il faut bien
que
quelqu'un s'en occupe.
Oui.
Et
oui.
vous savez bien que la loi autorise un maire, lorsqu'il y a des tombes en déshérence, à récupérer les emplacements.
Bien sûr, oui.
C'est-à-dire que les dépouilles, ou ce qu'il en reste, partent à la fosse commune, et plus de nom, plus de prénom.
Et c'est fini.
C'est disparu.
Et ce qui n'est d'abord pas normal sur le plan éthique, mais ce n'est pas normal aussi sur le plan de la justice. Vous avez des hommes qui sont tombés pour la France, qui sont dans des nécropoles, qui seront honorés éternellement.
Et d'autres
disparus. Dans des carrés militaires, honorés éternellement. Et les autres,
ils disparaîtront.
Alors, ça, c'est, je dirais, l'obsession du souvenir
voilà,
français.
Entretenir toutes les tombes
alors,
des gens qui sont morts pour la
France. Comment procède-t-on tout bêtement. C'est-à-dire que, quand on n'a rien à faire, et c'est très souvent, à nos âges de retraités, c'est d'aller dans les cimetières.
On va en promenade
et on relève les tombes des morts pour la France qui sont en déshérence ou pas, peu importe, mais on les relève. D'accord.
Oui.
Ensuite, on fait des recherches pour savoir si effectivement ils sont bien morts pour la France, qu'ils ont obtenu ce statut. Et après, on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on va voir les maires, éventuellement les familles s'il en existe encore. Mais il n'en reste plus.
Oui.
Alors, je vous cite un bon exemple. Oui, ça doit être 3h30 maintenant, c'est bon, je peux arrêter.
Vous pouvez continuer.
Alors,
c'est bon.
Alors, je vous citerai l'exemple de Vincent Carrera, qui était un. Caporal-chef d'un régiment de parachutistes. Alors, vous voyez, ça met aussi très...
Ah oui.
Hein bon. Et cet homme-là est décédé au Liban dans l'attentat du Drakkar.
Ah oui.
Cet
oui.
immeuble qui a été
pulvérisé
et qui est parti en fumée.
Pulvérisé. Bon.
Pulvérisé. Et cet homme-là, la dépouille, il n'en restait pas grand-chose, hein, mais elle a été rapatriée par la famille.
Ah, c'est, les... voilà, c'est ça.
C'est bien. Alors, sa tombe, elle est à Hauteville-Long.
D'accord.
Hauteville.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de famille.
Ah oui, les gens ont tous disparu.
Eh bien, voilà.
Ouais.
Alors,
ouais.
Que fait-on ? Alors, je sais qu'il y a un frère qui habite la région parisienne, mais qui n'est pas très sensible à l'entretien de la tombe.
Oui.
Donc, si vous voulez, avec des amis parachutistes, on s'occupe un petit peu de ça. Voilà.
Ben oui.
Mais c'est
le sauvetage.
C'est du sauvetage.
Ben oui.
Et dernièrement, nous avons fait avec Monsieur Subreville, qui ne veut pas apparaître toujours, mais c'est pas grave, je lui lance quand même des fleurs.
Aïe.
Aïe, oui.
Oh, ça nous pique, avons, ça pique un peu.
Nous sommes intervenus de concert à Meillonnat sur une tombe qui contenait deux dépouilles, figurez-vous.
Ah bon ?
Ça, c'est toute l'histoire de France. Ouais. Le papa, mort en 1900, mort,
et
tombé pour la France en 1917,
ah, oui.
Et le fils tombé pour la France en 1940.
Voilà. Oh là là,
le 10 mai 40 ou le 11 mai, je crois.
Voilà, ah, tout, oui. Au début. Voilà.
Tout début. Oui.
Tout
oui.
Au début.
Et oui.
Ces deux sont, enfin, pas côte à côte, ils sont l'un sur l'autre.
Bah oui,
c'est
ça.
Et ben, nous avons procédé au minimum déjà au nettoyage de la tombe. Mais il faudra repeindre, il faudra beaucoup de choses. Mais bon, ça, on peut le faire. On consacre en général, j'essaye de consacrer un samedi matin toutes les semaines.
Ah oui.
Il faut y aller, il faut le faire.
Voilà.
Et qu'il vente ou qu'il neige.
Alors, c'est le seau, l'eau de Javel, bon, et puis la brosse métallique, et puis etc. etc.
Il faut y aller.
Et puis après, on voit. Bon. C'est un travail.
Alors, c'est un travail de fourmi, mais pour vous, c'est très important.
Mais c'est très important.
Eh ben oui.
Parce que c'est honorer des gens.
C'est ça,
voilà. Voyez.
Ce n'est c'est pas entretenir les la mémoire, c'est
bon,
ça.
C'est vrai qu'en tant qu'ancien militaire, j'ai participé à beaucoup de cérémonies, bien sûr. Mais, si vous voulez, ça me laisse un goût amer. Je préfère, maintenant que je suis au Souvenir français, faire quelque chose, réaliser quelque chose. Alors, il y a ça, il y a les stèles de mes anciens camarades enfants de troupe à Neuville-sur-Ain, il y a des carrés militaires qui ont été créés avec, grâce à l'aide aussi de M. Subreville. Donc, on rayonne un petit peu de partout. Alors, pourquoi on rayonne, vous me direz, mais vous êtes à Bourg-en-Bresse, qu'est-ce que vous avez à faire à Meillonnat ? Ben oui, mais il n'y a pas de comité de souvenirs français.
Mais
là,
bien
donc
évidemment.
On s'en occupe.
Ben oui,
voilà.
Oui.
Voilà. On s'en occupe parce que les gens nous le demandent. Oui. Et que
puis ça y va de votre morale à vous aussi.
Voilà. Et puis ça. Et puis ça nous donne l'occasion de faire connaître un petit peu le rôle du souvenir français.
Car voilà. Beaucoup le ignorent.
Beaucoup
le
ignorent. Ben, ils ignorent tout simplement parce que ben, je pense.
Ils ne connaissent pas.
C'est une
méconnaissance du souvenir.
On n'a pas une médiatisation à la hauteur de notre engagement.
Voilà.
C'est tout. Voilà. Mes 4 heures sont passées, je te laisse la parole.
Ben, les 4 heures sont bien courtes. Et alors, on en était resté à la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, que s'est-il passé ces nécropoles, où peut-on les situer surtout en France? Est-ce qu'il y en a un peu partout, surtout dans l'Est et surtout dans le Nord?
Nord-Est.
Bah, c'est là où il y a eu le plus de morts.
Voilà. Il y a eu le plus de combats.
Voilà. Oui, voilà.
C'est par là où ils sont passés sans trop de difficultés, on va dire, quand
même. Oui. Nord et Est.
Hein, voilà. Trois fois.
Trois fois.
Oui.
Ouais.
Et oui.
Ouais.
Et oui. Et donc, maintenant, quelle est la politique du souvenir français? Par exemple, est-ce que la jeunesse est intéressée? Est-ce que cela...
Oui, parce qu'il faut transmettre et ça devient difficile.
Est-ce que cela leur parle? Déjà, le problème de la mort, les rapports avec la mort maintenant.
Alors,
aussi, ce n'est pas évident.
Je vous disais, premier petit problème que j'entrevois, c'est une médiatisation insuffisante.
Voilà.
Il faut nous faire connaître.
Bah oui, mais parce qu'on fait des quêtes, on fait ce genre de choses,
faire,
c'est
et
pas
nous faire connaître. Et nous faire connaître, ce n'est pas en arborant des drapeaux dans des cérémonies, parce
voilà.
que nous sommes très facilement assimilés, et d'ailleurs c'est l'erreur fatale qui est commise par la plupart des gens, c'est de nous prendre pour des anciens combattants.
Oui.
Nous ne sommes pas des anciens
combattants.
Il y en a. Mais nous ne sommes pas d'anciens.
Ce n'est pas du tout pareil.
Voilà. Alors, ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a effectivement, et on le disait très justement, il y a une autre approche de la mort pour les jeunes qui fut un temps. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'évidemment, comme tout bon membre du Souvenir français, nous faisons des quêtes.
Oui, c'est ça.
Notamment les 1er novembre, un petit peu avant, un petit peu après.
La quête traditionnelle de novembre.
La quête traditionnelle de novembre, et qui est d'ailleurs définie par décret.
Voilà.
Nous avons le droit de la faire.
Voilà.
Donc, dans les cimetières, bien entendu, et nous attendons les gens. Et très rarement, nous ne voyons pas beaucoup, je dirais, de jeunes qui viennent.
Oui, c'est ça.
Voilà. Parce que bon, peut-être leur philosophie a changé, hein, aussi. Les générations peuvent changer, peuvent avoir... Mais ils n'ont pas la même approche de la mort que... D'autant plus que maintenant, bon, finalement, beaucoup de corps sont incinérés.
C'est plus le même ressenti.
C'est plus le même ressenti.
Non.
Hein? Alors, donc voilà, il y a ça. Ces deux éléments sont, à mon avis, très importants.
Oui.
Et puis après, il y a le troisième élément, et là, je vais être méchant. Très méchant d'ailleurs, c'est qu'on n'enseigne plus l'histoire.
C'est ça.
Et qu'on enseigne très mal l'histoire.
C'est là le gros problème.
Voilà.
Ouais,
alors, c'est pas prendre des petites choses dans l'histoire pour expliquer ce que l'on veut expliquer ou ce que l'on veut inculquer dans les petites têtes blondes, mais il faut expliquer ce qu'est l'histoire.
Il n'y a pas de travail mémoriel.
Ce qu'a été l'histoire
mais
de notre
oui.
pays.
Mais
alors,
oui.
si vous voulez, ça m'agace d'autant plus. Hein, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est que à 1h30 d'avion, nous avons une belle guerre. Magnifique, splendide. Avec tous les crimes de guerre, avec les crimes contre l'humanité, avec tout ça. Bon, mais si vous voulez, ça. J'ai l'impression que même les jeunes ne s'en rendent pas compte.
Ça ne parle pas.
Ils ne sont pas concernés, en fait. On a l'impression qu'ils ne sont pas concernés.
C'est l'histoire de demain.
Mais c'est ça.
C'est l'histoire de demain. Parce que, bon, vous savez, on a eu des régimes dans l'histoire contre lesquels on a dû lutter. Alors, le dernier en date, c'était Adolphe, hein. C'était le plus terrible, la chose la plus horrible, la plus stupide, vouloir détruire un peuple, mais c'est de la folie. Bon, ben là vous avez la même chose. Réaction, hop.
On dit rien. Ça se
Alors,
passe pas chez nous.
Je veux dire, il y a d'autres fous. Hein, ça continuera. Il y a des fous qu'on amène au CPA à Bourg-en-Bresse, mais il y a aussi des fous qui sont au pouvoir.
Malheureusement.
Vous voyez, malheureusement. Hein, alors, bon, donc, si vous voulez, vous avez un grand démocrate en Corée du Nord, mais il y en a de partout. Alors, si vous voulez, ce qui serait bien aussi, c'est qu'on enseigne véritablement l'histoire sur des fondements réels, que l'on peut vérifier, bien entendu.
Hein? Alors, est-ce qu'on peut faire des voyages
et pas parler comme ça, alors on sort le fascisme, parce qu'on n'a pas la même idée que
oui,
vous.
Oui, ce
alors,
sont
vous
les idées.
Un fasciste.
On travaille les idées.
Oui, peut-être, mais il faut aller sur ce qui s'est passé.
On travaille, oui.
Sur ce qui s'est passé. Imaginez-vous, et c'est ce que les gens ne comprennent pas dans l'histoire, l'Allemagne. L'Allemagne qui a voté pour un régime
bien
comme
sûr,
ça,
oui.
sans le savoir, bien entendu, ce qu'il en serait. Mais imaginez-vous que c'est le premier pays au monde qui a permis d'éliminer un peuple constitutionnellement. Ce sont des lois.
Oui.
C'est terrible. Alors, c'est arrivé autre part, bien sûr. Même l'armée française, elle a commis des exactions à droite et à gauche. Mais, si vous voulez, c'était pas légalisé. C'était pas dans le règlement, ce qui est absolument terrible. Bon, les Indochinois en ont fait pareil. Bon, mais si vous voulez, c'est ce qui me choque, c'est que les gens ne font plus, les jeunes surtout, ne font plus la différence entre ces choses-là.
Oui, mais je pense que c'est un manque d'éducation.
Hein c'est aussi un manque d'éducation, mais,
bien évidemment.
C'est un manque de connaissances historiques.
Éducation et instruction.
Instruction, bien sûr.
Il ne faut pas mélanger les deux.
Mais il faut les deux.
Il faut les deux.
Oui, mais il ne faut pas les mélanger.
Pour former un homme, il faut les deux.
Mais
d'abord, c'est l'instruction.
C'est l'instruction, avant.
Moi, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça.
Oui.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu la chance, quand j'étais au lycée Chateaubriand à Rome, hein, en train d'user mes fonds de pantalon, Dieu sait si j'étais un élève pas très studieux, mais...
Dissipé, dirons-nous.
Dissipé, voilà.
Bien vivant.
Bien vivant, voilà.
Bien vivant.
Mais j'ai eu la chance d'avoir une professeure
Ah, ben c'est là, là le béaba.
D'histoire.
Ah, voilà.
Qui s'appelait Lucie Aubrac, si ça vous dit quelque chose.
Non, bien évidemment.
Alors, Lucie Aubrac, mais c'est elle qui a enseigné l'histoire, c'est elle qui nous a parlé de ça.
Oui, mais parce qu'elle avait été en première ligne.
Mais elle a été en première ligne, voilà. Mais elle a été courageuse.
Et très courageuse. Hein,
donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui... Je me souviens d'ailleurs, c'était la petite chose, c'était en sixième. Alors, en sixième, on avait l'Égypte. L'Égypte, vous savez, pour des gamins...
C'est les chameaux, les pyramides.
Oui, les chameaux, les pyramides, mais surtout les pyramides. Alors, bon, on en construisait avec des cubes pour bien comprendre comment ça... Mais bon, ça nous fatiguait très vite. Et donc, on devenait dissipés. Alors, elle a, avec une brillante intelligence qu'elle avait, elle a dit, écoutez, moi, on va faire un deal dès le départ, dès le premier mois. On fait trois quarts d'heure d'Égypte, c'est au programme, désolé, je suis obligé. Et puis, je vous garde 20 minutes après, et puis je vous parlerai de la résistance.
Voilà.
Alors, comme ça, elle avait une classe pendant trois quarts d'heure où on n'entendait pas une mouche voler. Si, il y en avait, parce qu'il faisait très chaud à Rome, donc on avait les mouches. Mais voilà, donc on avait cette, je dirais, cette soif de culture de ce qu'elle pouvait nous passer.
Puis elle l'avait vécu.
Elle avait vécu,
c'est
bon,
ça.
Mais si vous voulez, c'est et puis elle faisait des conférences. Vous voyez, il y a des choses qui sont importantes. Or maintenant, si vous voulez, chez les jeunes, moi, j'ai suivi mes enfants et j'ai encore leurs livres d'histoire. Rassurez-vous, ils les ont pas ouverts. Non, c'est moi qui ai décroché les pages après. Mais si vous voulez, il y a rien dans ces livres d'histoire. Il y a pas le principal.
Il y a pas de chronologie.
Il n'y a déjà pas de chronologie.
C'est là le problème.
Et pas de chronologie et surtout pas d'explication sur quelque chose.
Parce que c'est survolé.
Mais on fait des thèmes. On fait des thèmes. Alors, on fait des thèmes de la démocratie. Mais le gamin, qu'est-ce qu'il en sait de la démocratie ? Il faut lui faire la différence avec autre chose, sinon il ne la comprend pas. Ouais. Hein ? Et puis même quand vous êtes en train de faire de la démocratie, il faut dire que parfois, dans les démocraties, il y a de la corruption.
Mais oui.
Parce que c'est comme ça qu'on fera des citoyens, pas autrement. Mmh. Voyez ? Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave. Parce que il m'est arrivé dernièrement d'expliquer à des jeunes... Excusez le peu, c'était quand même la classe de seconde et c'était le service national universel.
Ah oui.
Vous savez qu'il leur donne des points après pour bon. Eh bien, écoutez, on m'a dit, ben voilà, il y a un résistant, essayez de faire un rapport sur son activité, sur bon, etc. Donc, on a été au monument, si vous voulez, qui lui est dédié au sommet d'une montagne. Je ne sais pas pourquoi on est allé là-haut, mais bon, alors, quand j'ai vu les gamins arriver, j'ai dit, il faut peut-être que je leur explique avant de commencer avec le résistant, quel était le
pourquoi des choses.
Le pourquoi des choses, comment on en est arrivé là.
Et oui.
Comment cet homme-là, qui était un homme formidable, qui était un ingénieur de l'ex-EDF, ça dit que ce n'était pas à l'époque, mais c'était quand même l'électricité.
Qui a vécu à Bourg et tout.
Voilà, et qui a vécu à Bourg, qui a bon, etc. Qui est mort des suites de maladies, parce que, évidemment, résistant dans le froid, ce n'était pas forcément l'idéal. Hein. Et bien, cet homme-là, je me dis, mais avant, il faut que je leur explique le contexte.
Ben oui.
Hein. Alors, j'ai commencé avec la France qui a été envahie. Bon, je ne suis pas arrivé aux Gaulois, mais la France qui a été envahie par les Allemands en 1940. Alors, j'ai dit, il y avait trois zones.
Oui.
Trois zones. Il y avait une zone interdite qui était la côte, bien sûr, parce qu'on ne voulait pas... C'est là que vous pouvez avoir lieu des débarquements, donc les Allemands se la réservaient. Puis il y avait une zone interdite derrière, hein. Et puis après, il y avait une zone dite libre, avec le gouvernement français, entre guillemets. Mmh. Bon. Et je dis, et le tout était séparé par une ligne de démarcation. Et une jeune fille qui lève la main et qui me dit, c'est quoi la démarcation ?
Ah ben d'accord.
Et oui.
Alors, bon, à part lui expliquer que c'est une démarque quand elle va faire les soldes pour les t-shirts, comment voulez-vous que j'explique ? Alors, il fallait que je démarre pour leur expliquer la ligne de démarcation qu'on ne pouvait pas franchir, les Allemands d'à côté.
C'était gardé, oui.
Voilà, c'était gardé, bon. Mais ce qui prouve qu'il y a une insuffisance de connaissances.
De connaissances, tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle m'avait encore raconté ?
Qu'est-ce qu'un occupant, non ?
Oui, alors j'avais dit l'occupant, parce que bon, toujours dire les Allemands, ça... Bon, hein ? Alors je dis l'occupant, ben, il est venu occuper tout le reste de la France le 11 novembre 42.
Voilà.
Une main qui se lève, qui c'est l'occupant ?
Et oui.
Ben oui, alors quand vous démarrez de là, vous... ben, il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Hein. Vous commencez à Versailles chez Théorix et puis vous voilà. Évoluez. Mais c'est là où je vous dis qu'il y a une insuffisance de connaissances. Parce que, alors, ce n'est pas par manque d'intérêt. Notez bien qu'ils ont été
Moi,
très...
Moi, je pense qu'ils sont intéressés.
Ils sont
même.
Intéressés, oui, mais oui. Il faut leur apprendre autre chose.
Bien sûr.
Il faut les diriger. Il voilà. Les diriger.
Il faut les aider.
Alors, vous voyez que tout le travail du souvenir français, voilà, et vous avez justement abordé le
pédagogique.
Sujet... Pédagogique, c'est-à-dire passer le flambeau.
Mais c'est ça.
Mais il faut transmettre,
mais il faut nous laisser rentrer dans les écoles. Or, d'après ce que j'ai compris, on laisse plus facilement rentrer des parents d'élèves que le souvenir français.
Ah bon ?
Ah ben oui.
Moi, ben, je vais vous laisser entrer moi un compositeur qui s'appelle Maurice Ravel.
Ah.
Et qui a participé à sa demande, parce qu'il avait été réformé à la Grande Guerre, et s'est retrouvé avec un gros camion sur la voie sacrée entre Bar-le-Duc et Verdun.
Oui.
Il s'en est vu parce qu'il était petit, il n'était pas costaud, il avait un gros camion, puis il n'y avait pas la direction assistée, il y avait beaucoup de choses. Bien, on en rit, mais ce n'est pas facile, puisqu'elle a été très très malade en même temps, elle a failli y passer. Et il a composé beaucoup, comme on sait, il y a le boléro de Ravel. Et bien là, c'est le tombeau de Couperin, un extrait du tombeau de Couperin qui est aussi bien connu. Et nous allons avoir le plaisir, grâce à Jimmy, d'avoir le fameux menuet. Donc, de tirer du tombeau de Couperin, ça va très bien, car là-bas, il y a beaucoup de tombeaux, malheureusement. Beaucoup de tombes, hélas. Alors, en route pour la danse. Nous retrouvons, après Maurice Ravel, nous retrouvons Denis Di Marino et Gisèle, après cette musique douce peut-être qui évoque, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, après tout ce que vous venez de nous raconter, Denis, par exemple, l'histoire,
je dirais
non,
la
certaine nostalgie, tristesse.
Oui, tristesse.
Certaine tristesse.
Mais
oui.
Malraux disait que la plus belle sépulture des morts, c'était la mémoire des vivants.
Oui.
Donc c'est très important.
Oui,
donc
oui.
Que les jeunes n'aient pas cette éducation-là.
Et oui.
Alors est-ce que, par exemple, s'ils faisaient des voyages mémoriels sur les plages de Normandie, à Verdun.
Oui, il faut
peut-être,
avoir.
Peut-être il faudrait aller. Enfin, je ne sais pas.
Il faudrait déjà avoir un bagage.
Oui. Voilà,
c'est oui, ça. Mais ça devrait être préparé en amont. Si un voyage est préparé, je pense que les enfants, ils auraient peut-être plus d'ouverture d'esprit.
Oui, mais ils voient le voyage comme quelque chose
oui.
qui change du train-train.
C'est
une récréation.
Récréatif.
Mais à la fois, c'est pas gênant que ce soit récréatif. Parce qu'ils vont quelque part. Alors, ils y vont ensemble. Et je pense que c'est pour partager ce moment.
Oui. Mais si vous voulez, vous pouvez. On l'a déjà fait parce qu'on est allé.
C'est pas facile.
On est allé faire un voyage, un déplacement sur le vieil Armand, le Hartmannsweilerkopf.
Oui.
Mais le problème, il est que vous pouvez expliquer évidemment le contexte de cette bataille du vieil Armand en disant, c'était le sommet élevé des Vosges sur lequel qui avait une importance stratégique importante
bien
puisque
sûr.
De là on pouvait voir en Allemagne et jusqu'à la plaine d'après le Rhin.
Oui.
Donc effectivement, c'était un objectif militaire, c'était quelque chose de très important. Vous pouvez expliquer ça. Vous pouvez expliquer les batailles qui ont eu lieu, les coups de canon de 450 tous les jours.
Ça devient technique.
Pris et repris par les Allemands. Bon,
oui.
Mais ça devient technique.
Technique tout de suite, c'est pas n'importe quoi.
Il ne faut pas le séparer de la guerre 14-18, en fait.
Hein? Oui, c'est un tout. Ça, c'est,
c'est un tout.
Oui,
voilà.
Oui.
Alors pourquoi alors, si vous voulez, ce qu'il faut expliquer, il faut expliquer aussi que la guerre 14-18, elle n'est pas venue comme ça non plus.
Pourquoi elle est arrivée?
Elle a été aussi voulue.
Mais c'était pas après la guerre de 70. Ça.
Oui, elle a été voulue aussi par les Français.
Oui, bien sûr.
On a préparé cette échéance depuis longtemps pour reprendre aux Allemands ce qu'ils nous avaient retiré. Mais si vous voulez, ce n'est pas uniquement la faute des Allemands.
Bien évidemment.
Voilà l'histoire, voilà l'intelligence à expliquer quelque chose. Parce que l'Allemagne, vous savez, l'Allemagne de l'époque était bien plus évoluée que nous. On en discutait l'autre jour. Notre vieil ami Bismarck, qui a été destitué, avait quand même créé la sécurité sociale.
Ah, mais on a fait une émission sur Bismarck. Voilà. On en avait parlé.
Et il avait quand même malheureusement un parlement qui fonctionnait.
Oui.
Donc, malgré la présence de la famille royale, mais c'était un pays qui était très évolué, qui avait déjà compris l'utilité des tracteurs à moteur. Alors que chez nous, on était encore avec
les charrues.
Voilà, avec les charrues.
Voilà.
Et jusqu'en 40, moi j'ai eu des habitants de Bretagne, j'étais en vacances, qui m'ont raconté que en 40, ils ont été surpris, lorsqu'ils ont été faits prisonniers, de voir le modernisme qui régnait en Allemagne. Parce qu'eux, ils étaient avec le cheval et la charrue, et puis pas tous les jours, parce que quand il pleuvait, ils ne pouvaient pas.
Ah oui, ils s'en tombaient.
Et les Allemands, ils avaient déjà les tracteurs, tout, les moissonneuses-batteuses et compagnie. Donc, si vous voulez, il faut. La connaissance, c'est ça.
Il faut préparer, mais c'est très difficile
parce que
ça nous fait remonter très profondément en arrière.
Tout à fait. Tout à fait.
Et c'est ça. Et comme la mémoire n'est plus vraiment éduquée maintenant chez les jeunes, malheureusement,
ça nous fait remonter très loin.
C'est dommage.
Exactement.
C'est dommage parce qu'alors il y a les réseaux sociaux, on pourrait aussi partir de là, peut-être.
Vous savez,
les jeunes, ils sont sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est bon.
Oui,
c'est leur nouveau.
C'est bien et c'est mal, mais ils ne croient plus en rien.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire, ils croient surtout aux fausses nouvelles. C'est ce qui m'inquiète, d'ailleurs.
Ah, moi aussi.
Mais bon, peu importe.
Mais justement, il faudrait...
Donc, Ravel, c'est la tristesse.
Voilà, pour moi, c'est la tristesse.
Et puis la tristesse, ouais. Surtout quand on connaît le site.
Et nostalgie,
nostalgie. Oui, il est revenu. Il se demande pourquoi il est encore en vie.
Oui
aussi. La nostalgie qu'il exprime et peut-être de l'espoir. Enfin, dans d'autres œuvres, il y a l'espoir, l'espérance,
parce
on va
qu'il
dire.
Il a beaucoup souffert quand même parce que son service qu'il a fait, malgré lui, parce qu'il fallait bien l'utiliser, on l'a utilisé dans le camionnage.
Dans le camionnage,
parce
alors
qu'il
était...
pouvait pas faire autre chose.
Mais c'était... pas si inoffensif
si
que ça, c'était très dangereux, parce que les Allemands, ils bombardaient.
Ils bombardaient.
Quand on transportait 3000 obus derrière dans le camion, effectivement, ça pouvait
et deux jours comme de nuit, hiver et tout.
Tout à fait.
Était physiquement...
La voix sacrée.
La voix sacrée.
À l'approche, donc, de Verdun, c'était très dangereux. Il y a beaucoup de camions qui ont sauté. Hein.
Oui.
Beaucoup. Il risquait sa vie, voilà.
Bah oui.
Donc l'espérance, on va dire, et c'est l'espérance que l'on trouve aussi lors des commémorations, peut-être, on va dire. Le souvenir français se matérialise par un petit macaron tricolore que l'on trouve sur les croix, sur les tombes, et puis peut-être sur d'autres monuments, peut-être, ou d'expressions un peu curieuses, style tombe de regroupement. Qu'est-ce qu'on regroupe ?
On regroupe des dépouilles, des restes, de soldats.
Des reliques, presque.
Qui sont restés 70 ans, 80, un siècle dans une tombe. Et pour créer ce que nous avons fait avec beaucoup de succès à Bourg-en-Bresse, pour créer... cette tombe de regroupement, ça ne me plaît pas. C'est un terme pour faire plaisir à tout le monde.
C'est imagé.
Le mot regroupement, ça ne va pas bien.
C'est imagé.
Moi, je dirais un ossuaire.
Voilà.
Oui, c'est mieux.
C'est un ossuaire militaire.
C'est plus respectueux, moi, je trouve.
Comme à Verdun, comme à Douaumont.
Moi, je pense que le mot ossuaire, c'est plus respectueux que regroupement.
Voilà, un ossuaire. Pourquoi ? Parce que...
Il y a le mot os dedans.
Effectivement, il faut savoir comment ça se présente.
C'est ça.
Alors, un ossuaire, c'est une grande tombe, déjà. À peu près deux emplacements de tombe, à peu près, en gros.
Oui.
Bétonné, bien entendu, surmonté d'un monument, avec une petite trappe, si vous voulez, où on peut constamment rajouter des soldats. Mais des soldats qui sont comment ? Dans des sacs plastiques de Carrefour. Et pas plus. À l'époque, on faisait des reliquaires. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ressemblait à un cercueil, mais tout petit.
D'accord,
on mettait les quelques os qu'on avait trouvés. Mais maintenant, non, on est moderne, maintenant c'est le plastique. j'appelle ça les sacs Carrefour parce que...
C'est pas très écolo.
Non, mais puis c'est quelque chose qui, je trouve, qui va pas avec le sacré.
Avec le
sacré. Alors, c'est pour ça que peu importe l'essentiel, c'est qu'il y ait des noms sur ce monument.
C'est ça.
Voilà. Parce que lorsque nous avons commencé le relevé du cimetière de Bourg-en-Bresse, nous avons relevé 60 tombes. Qui étaient en déshérence et condamnés à disparaître dans les 3 ans qui suivaient.
Parce que la mairie allait récupérer le
bien sûr. Et puis, vous savez qu'à Bourg-en-Bresse, c'est un petit peu serré, donc on a besoin de place. Donc, si vous voulez, on est allé voir monsieur le maire et je lui rends un très grand hommage.
Tout à fait, un hommage appuyé.
C'est vrai.
Parce que nous sommes restés très peu de temps dans son bureau. Et on était venu pour lui demander un petit peu d'argent pour faire notre ossuaire.
Oui.
Que nenni ! Il nous a battus avant parce qu'il a dit.
Il a advancé.
Il a dit je vous fais cadeau de 2 emplacements pour votre ossuaire. Alors, c'est élégant. En 2015. C'est élégant. Et c'était hors, je précise tout de suite, hors élection.
Mais oui.
Non, parce que d'aucuns diront
ça,
que...
Non. C'est parce qu'il était touché.
C'était l'homme.
L'humaniste.
Et dirais-je ? Donc, nous avons, avec ça, riche de ça, c'était déjà pas mal. On avait déjà l'emplacement. Bon, on a fait petit à petit, parce qu'évidemment, l'argent l'argent, on ne le trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et nous avons fait, un caveau béton. Voilà, caveau béton. Ben, une fois que le caveau béton était fait, on pouvait déjà mettre dedans quelques petites choses. Bon. Et ensuite, ben, nous avons eu cette grande aventure du monument qui nous a aussi coûté cher. Mais si vous voulez, grâce au marbrier de Perona, Monsieur Givre, qui d'abord a des talents d'artiste dans le domaine, mais aussi des talents d'humaniste, parce qu'il nous a aussi fait des cadeaux. Si j'ose dire.
Et pas négligeable.
Et ça aussi,
C'est important.
Voilà. Parce que c'est rare de nos jours.
Hein. Ça devient de plus en plus rare.
Et des cadeaux de cette ampleur, c'est déjà pas mal.
Alors, et qu'il a compris l'intérêt
de la chose. Il a compris l'intérêt de la chose.
Hein, voilà.
Probablement parce qu'aussi, il a de la famille militaire, etc.
Voilà. Oui, mais il était prêt à écouter, quand même.
Voilà. Si vous voulez, ça nous a permis de créer cet ossuaire et de libérer, si vous voulez, déjà... Là où il n'y avait plus de famille.
Mais oui.
Bon. Donc, petit à petit, et ça c'est un autre accord de Monsieur le maire... Les dépouilles seront exhumées petit à petit, au fur et à mesure qu'on a besoin des emplacements, et mis dans ce fameux ossuaire.
Voilà, hein.
Donc il n'est pas rempli pour l'instant, il n'est pas complet.
Mais il est là, petit à petit.
Demain, on peut avoir d'autres soldats français qui meurent, j'allais dire au Mali. Non, c'est fini.
Non, c'est fini,
Mali. On nous aime plus. Mais autre part... Dans le monde, c'est pas ce qui manquera. Hein. Donc, voilà. Et moi qui étais soldat, je suis très sensible à ça.
Oui.
Parce que, vous savez, je vous donne un exemple. Et vous savez que ça existait aussi dans l'armée très récemment. En 14-18, les soldats demandaient à leurs petits copains « Si je suis mort quelque part, récupère mon corps. » Et pour lui, il pouvait, je dirais, presque mourir sereinement.
Parce qu'il savait
qu'on s'occuperait de son corps. Il voulait pas pourrir dans un trou d'obus rempli d'eau, manger par les rats. Voilà. Ce qu'on a souvent, d'ailleurs.
Et ça
existe et encore perduré dans l'armée d'aujourd'hui. Dans l'armée d'aujourd'hui, on sait qu'on a les vasanes. Les vasanes, c'est l'évacuation sanitaire. Hein. On sait que, de toute façon, mort, vivant, blessé, etc., il est évacué dans la demi-heure qui suit, grâce aux hélicoptères, aux moyens de maintenant. À l'époque, on n'avait pas. Hein. Mais, si vous voulez, c'est quelque chose de rassurant pour le combattant. Le combattant, il sait qu'il peut être récupéré. Et c'est important. Et pour sa famille aussi.
Et puis même pour la France.
Vous savez, moi, j'ai...
Il est mort pour la France.
Il m'a été donné d'être convié au retour, au rapatriement de corps de nos jeunes qui sont morts en Afrique, à la Valbonne, au 68e, avec une cérémonie en armes, bien entendu. Et vous savez, quand vous voyez une mère de famille avec un enfant dans les bras et deux dans la poussette, les larmes vous viennent aux yeux.
Vous voyez,
voilà. Et de savoir qu'après, avec ça, vous avez quand même une aide de l'armée, de l'État, etc.
Et de reconnaissance.
C'est important. Vous voyez, élever ses enfants dans la mémoire du père.
Dans le souvenir du père.
C'est important.
Qui est mort pour la France.
Qui est mort pour la France, bien entendu. Au même titre que ceux de 14-18.
Hein. Quand
je vous dis, les gens, ils pensent anciens combattants. Non, c'est maintenant. Le statut de mort pour la France existe toujours.
Qu'il soit en France ou à l'étranger, il meurt toujours.
Il meurt toujours pour la France.
Voilà. Cette reconnaissance qui est importante.
Le souvenir français. Et malheureusement, il a fallu la guerre que la France a déclarée à la Prusse.
C'est vrai.
L'enchaînement et tout ça.
C'est vrai.
Déclarer une guerre sur un coup d'éclat.
Oui.
Parce qu'elle n'était pas prête.
Non.
Et en face, il y avait des pros.
Tout à fait.
Prenez le train, on arrivait avec le télégraphe.
Tout à fait.
Et nous, on...
Ouais. On marchait à pied. Et on allait dans les...
Bizarrement, on avait une armée quand même de bras cassés, c'est pas possible.
Oui, mais c'était les armées de l'époque.
Allemands, ils avaient une armée qui représentait quelque chose. Et allaient se battre contre eux.
C'est une mentalité.
Ça vient de la géographie aussi.
Vous savez que les Français... les militaires n'avaient même pas de carte. Ah. Et qu'ils étaient obligés d'aller dans les bureaux de tabac pour avoir des cartes.
C'est pas vrai.
Oui. Oui. Ah oui. Ils quittaient la troupe, ils allaient acheter vite une carte en Lorraine, là, quelque part, à Gravelotte, là.
Oui, oui. Oui.
Et puis, paf, on avait la carte. Au moins, on avait les principales routes.
Oui.
Et moi, je vous montrerai, parce que...
Mais alors, l'état-major n'avait rien
Non, mais ils devaient les garder. Hein.
Ah, alors,
parce qu'en 70, on pensait que la campagne serait en Allemagne.
Oui, sur un Allemagne.
Ah, ça ne se passerait pas en France.
Oh, non, bien sûr. Bien sûr. Non, attendez. Oui. Je vais vous expliquer. Moi qui suis de famille également allemande, du côté de ma maman, je peux vous montrer des cartes qu'avait mon grand-père, qui était un obreux prussien avec un casque à pointe. Oui. Que j'ai toujours, d'ailleurs. Si vous voulez, je le porterai à la prochaine cérémonie.
D'accord.
Bon. Le casque, hein, pas le grand-père.
Oui, le casque, oui.
Le grand-père est toujours là.
Oui, le grand-père est toujours dans mon cœur. Mais j'ai encore ces cartes de l'époque, de 14-18. Je peux vous les montrer.
Elles sont très précises.
Mais très précises.
Ah, ouais.
Ils avaient tout sur la France. Ils avaient tout. Et ce sont des cartes qui sont en tissu.
Ah oui.
Vous voyez, qui sont pliables. Par petits morceaux. Mmh.
Qu'on pouvait transporter,
qui ne s'usaient pas.
Ah,
la
oui.
preuve,
ben
elle
oui.
existe toujours.
Ah, oui.
Et j'ai une grande partie de la Lorraine là-dessus. Et ils avaient tout, les ponts, les trucs, où ils pouvaient passer, où ils ne pouvaient pas passer.
Tout était marqué.
Et nous, on était là, on n'avait rien, on n'avait même
alors
pas une carte.
On va où, on fait quoi?
Voilà, c'est un peu comme l'armée russe d'aujourd'hui. C'est
oui.
un peu ça.
Ils sont un peu perdus, oui.
C'est ça.
Oui.
Voilà,
c'est ça.
Mais vous savez, vous retrouvez toujours dans la tradition militaire des choses qui se sont passées depuis des siècles.
Oui.
Quand je vous parle de l'armée russe, c'est très méchant, mais tout le monde est étonné.
Ah oui, ah ben c'est, hein, sûrement.
Mais,
oui.
Moi, je suis moins étonné. Vous savez, avant la bataille de Tannenberg en 1914, il y a des armées russes qui ne connaissaient pas l'existence d'une autre armée russe à leur gauche, à 20 kilomètres.
Ah oui. Ah, ça doit être ça maintenant, pareil.
Et ça n'a pas changé. Mmh. Il y a une insuffisance, une légèreté qui existe dans les armées. Qui,
oui, oui.
Voilà.
C'est bien. On va bientôt...
Voilà,
finir.
Mes 4 heures sont finies déjà.
Ce cours d'histoire, on va dire, grâce aux souvenirs français.
On va inaugurer l'ossuaire quand même.
Alors, on va inaugurer l'ossuaire le 10 septembre,
voilà.
À 10h, allez, disons 10h30, hein, pour que les gens soient
oui,
à l'heure.
Oui.
10h30, pour un début à 10h45, une mise en place terminée. Et voilà. Donc, j'invite le plus grand nombre possible de gens, parce que c'est d'abord quelque chose à voir au niveau de la réalisation,
voilà.
Mais c'est aussi quelque chose
à
laquelle il faut participer.
À apprendre.
Voilà.
Merci, cher Denis.
Merci, monsieur Chubreuil.
Merci.
Merci, Gisèle.
Merci à Jimmy, qui a bénéficié d'un cours d'histoire aussi.
Gratuit.
Et nous allons repartir avec Mozart, si vous voulez bien. Mozart avec la 40e. À partir pour repartir un peu dans l'espérance, mais nourri de ce que nous avons entendu aujourd'hui grâce à vous.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.